إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الله سبحانه وتعالى de par sa sagesse, il a fait de ce bas monde un champ de récolte pour l'au-delà. Et il fait partie de sa grâce et de ses bienfaits envers ses serviteurs qu'il décuple la récompense de leurs bonnes œuvres. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde envers nous, il a fait qu'en certains moments, les œuvres des serviteurs sont encore plus décuplées et que les récompenses des œuvres sont encore plus grandes. Et parmi ces moments les plus importants durant l'année, il y a le mois béni de Ramadan qui approche et qui commencera bientôt, incha'Allah ta'ala. Ce mois, qui est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son livre. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan est celui durant lequel est descendu le Qur'an, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc aux musulmans, à l'approche de ce mois béni de Ramadan, ce mois durant lequel les œuvres des serviteurs sont décuplées, ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Il convient aux musulmans à l'approche de ce mois de se préparer à son accueil, et ce, afin de ne pas perdre le bien de ce mois, et afin de ne pas laisser s'échapper le bien qu'il y a dans ce mois, afin de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, les salafs de notre communauté, ils veillaient durant ce mois à multiplier les œuvres pieuses, mais également, ils choisissaient quelles étaient les œuvres qu'ils accomplissaient. C'est-à-dire qu'ils favorisaient certaines œuvres parce qu'elles sont plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens, ils ne sont pas tous égaux en termes d'accueil du mois de Ramadan. En effet, les gens diffèrent dans leur manière d'accueillir ce mois. Il y a parmi les gens, certains qui accueillent ce mois avec joie et réjouissance. Ils sont contents de l'arrivée de ce mois, car ils savent que ce mois est une occasion pour eux afin de se rapprocher de leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'il y a durant ce mois des heures bénites, durant lesquelles les œuvres sont décuplées. Et ils savent qu'il y a durant ce mois une cause pour être pardonné par Allah, subhanahu wa ta'ala, et être affranchi du feu de l'enfer. Donc ces gens-là, lorsqu'ils apprennent l'arrivée du mois de Ramadan, ils se réjouissent et sont heureux. D'autres personnes, lorsqu'ils entendent ou ont connaissance de l'approche du mois de Ramadan, alors tu les vois effrayés, car ils savent qu'ils vont devoir jeûner durant les longues journées, prier la nuit, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire durant l'année. Et ce, à cause de la faiblesse de leur foi. En effet, la différence qu'il y a entre les gens quant à l'accueil du mois de Ramadan, elle est due à la différence de la foi de la personne. Plus la foi de la personne est haute, plus elle se réjouit de l'arrivée de ce mois. Et plus la foi de la personne est basse, plus elle craint l'arrivée de ce mois. C'est pour cela, mes frères, que celui qui souhaite profiter de ce mois, il doit tout d'abord purifier son cœur de toute mauvaise chose et de tout mauvais sentiment qui pourrait se trouver en celui-ci. En effet, le croyant qui a un cœur saint, il se réjouit de l'arrivée de ce mois durant lequel il va multiplier les œuvres de bien d'un cœur réjoui et d'une poitrine épanouie. Il accueille l'ensemble des moments de bien, l'ensemble des moments méritoires en louant Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait immense qu'il a accordé à ses serviteurs. De plus, le croyant qui a un cœur saint, il sait que ce mois qu'il va atteindre, c'est peut-être sa dernière occasion pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a conscience du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé en lui permettant de pouvoir atteindre ce mois. Combien de personnes ont jeûné avec nous l'an passé et ne seront pas avec nous cette année? Combien de personnes auraient aimé jeûner cette année, mais la maladie va les en empêcher? Combien de personnes auraient aimé pouvoir profiter des bienfaits de ce mois, mais ils ne peuvent pas, car dans leur pays, il y a la guerre, les troubles, et ils sont préoccupés par ces choses qui les empêchent de pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Donc le serviteur croyant, celui qui a un cœur saint, un cœur purifié de toute chose qui le détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit de l'arrivée de ce mois et il l'accueille avec une poitrine épanouie. Cependant, on voit que certaines personnes il n'y a pas en eux cette réjouissance. Et quelle en est la cause? Il se peut que la cause, ce soit l'attachement du cœur au désir de l'âme, au désir éphémère de ce bas monde. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont attachées à l'argent, attachées au bien de ce bas monde. Et il a du mal à faire l'aumône. Son amour pour l'argent, il fait que l'aumône est quelque chose de difficile pour lui, car son cœur est accroché au bien éphémère de ce bas monde. D'autres, leur cœur est attaché à la nourriture et à la boisson. Donc, à l'arrivée du mois de Ramadan, il sait qu'il va devoir délaisser ses désirs, et c'est pour cela que ceci est difficile pour lui. Et ainsi de suite, parmi les choses qui peuvent détourner la personne de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les désirs éphémères de ce bas monde. Et tout ceci, mes frères, la difficulté à accomplir les œuvres pieuses, le fait d'avoir du mal à se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci est la conséquence d'une faiblesse et d'une déficience dans notre foi. Et également, du manque d'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le cœur des serviteurs. En effet, compare la situation de beaucoup de gens aujourd'hui à la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, pour la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ » La réjouissance de mes yeux a été mise dans la prière. Et il disait à Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, « أَرِحْنَ بِهَا يَا بِلَال » Apaise-nous par celle-ci, ô Bilal. C'est-à-dire, va faire l'appel à la prière afin que l'on puisse prier, se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, profiter de la douceur de l'adoration. Certains parmi les musulmans, aujourd'hui, lorsqu'ils voient que s'approche l'heure de la prière, ils sont déçus. C'est déjà l'heure de la prière, subhanallah. Et il va à la mosquée en traînant les pieds. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il disait, « Arihna biha ya Bilal. » Apaise-nous par celle-ci, ô Bilal. On doit donc suivre en cela l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, comme l'on l'a dit, les frères, c'est la conséquence de l'attachement du cœur au désir éphémère de ce bas monde. Également, parmi les choses qui font que certaines personnes peuvent avoir du mal à accomplir certaines adorations, notamment dans les moments de bien, comme le mois de Ramadan, il y a le fait que certains s'imposent des choses au-dessus de leurs capacités. Ils s'imposent des choses qu'ils ne peuvent pas faire, qui ne sont pas de ses capacités. Ils ne peuvent pas être constants dans ses œuvres. Donc, comme il s'est imposé une charge trop lourde pour lui, ceci aura comme conséquence, ou bien qu'il délaissera ces choses qu'il s'est imposées parmi les œuvres pieuses. Par exemple, le mois de Ramadan arrive, quelqu'un va se dire « je vais terminer le Coran tous les 3 jours ». Mais il sait que ses occupations, le temps qu'il a, ses efforts qu'il fait, ne lui permettront pas d'être constant sur cela tout le mois de Ramadan. Il va donc s'imposer cette charge lourde, à faire une fois, 2 fois, puis après, qu'est-ce qu'il va se passer? Ou bien il va la délaisser totalement, ou alors il va la diminuer, ou alors il va se contraindre à la faire, mais sa poitrine ne sera pas éponyme, ne se réjouira pas d'accomplir cette adoration. Il verra ça comme une charge de laquelle il doit se débarrasser. C'est pour cela qu'il convient à la personne de se faire un programme en termes d'adoration ou autre, d'une manière qui ne dépasse pas ses capacités. Sans oublier la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ahabbu l'amal ilallah adwamuha wa inqal » Les meilleures des œuvres auprès d'Allah, ce sont les plus constantes, même si elles sont peu. Donc la personne, elle s'attache à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et elle accomplit des œuvres, ce qui est dans ses capacités, et elle reste ferme et elle persévère sur celle-ci. Puis après, par la suite, elle augmente dans ses œuvres. Donc, comme on a dit, le mois de Ramadan arrive prochainement. Et la question que l'on pourrait se poser, en plus du fait de se réjouir, est comment accueillir ce mois? Comment accueillir le mois de Ramadan? Il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour les croyants à l'arrivée du mois de Ramadan. La première, qui est une chose importante, c'est de se repentir véridiquement à Allah subhanahu wa ta'ala de nos péchés. Le mois de Ramadan, mes frères, c'est une occasion immense pour les pécheurs de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne durant ce mois les démons. Les diables sont enchaînés. Les portes du paradis, elles sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Ce mois est une occasion immense pour te réformer. Tu dois donc accueillir ce mois par un repentir véridique, en ayant la ferme volonté de délaisser les péchés et de te réformer, de te tenir sur le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les péchés, ce sont une cause pour que le serviteur, il soit privé des biens de ce bas monde et des biens de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ » Aucune calamité ne vous atteint, si ce n'est à cause de ce que vos mains ont commis. et il pardonne beaucoup. Qu'y a-t-il de plus grand ou de plus grave en termes de calamité que la personne soit privée du fait de profiter du mois de Ramadan? Que la personne soit privée de l'accomplissement des œuvres pieuses. C'est pour cela, mes frères, qu'il faut commencer tout d'abord par se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser les péchés et que ces péchés ne soient pas une cause de la privation du bien qu'il y a en ce mois. En effet, certains péchés, ils empêchent à la personne de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est rapporté dans certains récits de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Comme certains qui disaient, j'accomplis un péché qui m'empêche de prier la nuit. Ou un autre qui se plaint à son cher et lui demande, je n'arrive plus à me lever la nuit pour prier. Et qui lui répond, ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Donc si tu ressens que tu as du mal à accomplir certaines adorations, remets-toi en question et repens-toi de tes péchés. Il se peut que ces péchés soient la cause de ton empêchement à l'accomplissement de nombreuses œuvres pieuses. La deuxième chose nécessaire pour accueillir ce mois de Ramadan comme il se doit, c'est d'avoir la volonté ferme et véridique de profiter de ce mois et de l'utiliser dans le bien pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la véracité de ton intention, elle se verra à travers les œuvres que tu accomplis. Nombreux sont ceux qui disent, je vais profiter du mois de Ramadan pour accomplir ceci et cela. Je vais profiter du mois de Ramadan pour venir plus souvent à la mosquée. Je veux profiter du mois de Ramadan pour délaisser tel et tel péché. Mais peu sont ceux qui sont fermes dans leur volonté et qui sont véridiques. Et ceux qui sont véridiques, ce sont ceux qui vont faire les causes afin de pouvoir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. La troisième chose, mes frères, par laquelle il convient d'accueillir le mois de Ramadan, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide à profiter de ce mois et qu'il t'aide à te soumettre à lui en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Donc tu multiplies les invocations. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite durant ce mois la multiplication des œuvres pieuses, qu'il t'aide à profiter de ce mois et qu'il éloigne de toi toute chose qui pourrait te détourner de cela. En effet, il y a des choses qui peuvent parfois détourner le serviteur de ce qu'il souhaite entreprendre. Cela peut être une mauvaise compagnie, cela peut être certaines occupations, des proches, une maladie ou autre chose qui détourne le serviteur de pouvoir profiter de ce mois. Donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et tu multiplies l'invocation qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. La quatrième chose par laquelle il convient d'accueillir le mois de Ramadan, c'est de multiplier les œuvres pieuses de manière générale, et ce, même avant ce mois. Si tu souhaites te réformer, si tu souhaites te repentir, si tu souhaites lire le Coran, pourquoi attends-tu l'arrivée du mois de Ramadan? Commence dès maintenant. Le Seigneur que tu vas adorer durant le mois de Ramadan, c'est le même Seigneur que tu dois adorer aujourd'hui. Commence dès maintenant à multiplier les œuvres pieuses. Prépare-toi à l'arrivée de ce mois. Ne reste pas dans la paresse, dans l'oisiveté, jusqu'au mois de Ramadan, en pensant que dès que le mois de Ramadan va arriver, tu vas te métamorphoser. Tu dois faire des efforts dès aujourd'hui. Commence à multiplier des œuvres pieuses afin d'être prêt à pouvoir accueillir le mois de Ramadan. Et les savants ont mentionné qu'il fait partie des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait le jeûne durant le mois de Sha'ban, c'est de se préparer à l'arrivée du mois de Ramadan. En effet, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha qu'elle a dit « Ma ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais complété le jeûne d'un mois, c'est-à-dire jeûner un mois en entier, si ce n'est le mois de Ramadan. Et elle dit, radiyallahu ta'ala anha, et je ne l'ai pas vu jeûner plus durant un mois que durant le mois de Sha'ban. Les gens de science, rahimahumullahu ta'ala, ont mentionné qu'il fait partie des sagesses de cela, de se préparer à l'accueil du mois de Ramadan, car il fait partie de la récompense de la bonne action que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, quoi ? Qu'il te facilite pour l'accomplissement d'une autre bonne action. La bonne action, elle mène à la bonne action. Plus tu en accomplis, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter l'accomplissement des bonnes actions. Yarhamukallah. Donc, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu accomplis des bonnes actions afin qu'il te facilite durant ce mois. Et à ce sujet, on rapporte également de certains parmi les pieux prédécesseurs, parmi les salaf, rahimahumullahu ta'ala, que lorsque venait le mois de Sha'ban, qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait son magasin, c'est-à-dire il arrêtait de travailler. Et il se consacra à la lecture du Coran durant le mois de Sha'ban, pas durant le mois de Ramadan. Il se préparait à l'arrivée du mois de Ramadan. D'ailleurs, le mois de Sha'ban a été appelé par certains le mois des lecteurs. En effet, ceux qui dirigent les prières, tu les verras souvent durant le mois de Sha'ban, se consacrer à quoi? La révision du Coran. C'est qui va devoir diriger la prière aux musulmans. Donc, ils révisent beaucoup durant le mois de Sha'ban. Et en faisant cela, ils se préparent à l'arrivée du mois de Ramadan. Ceci sont donc quatre points importants et nécessaires afin d'accueillir le mois de Ramadan de la meilleure manière. On va maintenant voir quelques rappels et quelques questions importantes à souligner à l'occasion de l'arrivée de ce mois. Le premier rappel ou la première question, c'est qu'il convient aux musulmans de concrétiser de manière générale dans sa vie et plus précisément dans son jeûne et ses autres adorations la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ton jeûne, tu dois l'accomplir par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas par habitude, non pas pour faire comme tes parents, non pas pour faire comme tes amis, mais tu jeûnes par pure soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler que le serviteur, il n'a de ses œuvres que ce dont il a eu l'intention. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, apporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumullahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, innama l'a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Et chacun d'entre vous aura ce dont il a eu l'intention. Celui qui jeûne pour faire comme ses amis, celui qui jeûne pour satisfaire ses parents, celui qui jeûne par coutume ou par habitude, pensez-vous qu'il aura la même récompense que celui qui jeûne par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher de lui? Il n'y a pas de doute que la différence entre les deux, elle est telle, la différence entre les cieux et la terre. Donc, tu dois faire en sorte de concrétiser cela dans ton cœur, de te rappeler que ce jeûne, tu l'accomplis par pure soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que l'œuvre, en fonction de l'intention, elle change de statut. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intention que tu as dans tes œuvres, ton œuvre n'a plus le même jugement et n'a plus le même statut. Par exemple, une œuvre ordinaire, si elle est accompagnée d'une bonne intention, elle peut se transformer en adoration. Le fait de dormir, c'est une œuvre ordinaire. Tous les hommes dorment. Mais celui qui dort avec pour intention d'être en forme pour se lever au fajr, il a peut-être des choses à faire ou des occupations, mais il part se coucher afin de pouvoir se lever au fajr. Celui-ci, il est récompensé pour son sommeil. Celui, par exemple, qui mange durant la nuit, pendant le mois de Ramadan, et que son intention, elle soit de ne pas être distrait par la faim durant la journée et de pouvoir lire le Coran avec méditation. Il n'est pas égal avec celui qui mange par désir de la nourriture. Il a transformé un œuvre ordinaire en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De par quoi? De par son intention. Et de la même manière, l'adoration, si elle est dépourvue de bonne intention, alors elle se transforme en acte ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense. Celui qui jeûne par habitude ou par coutume, qui n'a pas l'intention de jeûner pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son jeûne, il se transforme en acte ordinaire et ce n'est plus une adoration. Et si l'œuvre, en plus d'être dépourvue d'une bonne intention, qu'elle est accompagnée d'une mauvaise intention ou d'une intention corrompue, comme le fait de jeûner par ostentation ou d'accomplir une quelconque adoration afin de recevoir les compliments des gens ou autre mauvaise intention, alors en plus que son œuvre soit rejetée, cette personne sera dans le péché. Wallahu musta'an. On voit que toutes ces personnes, elles font les mêmes actes, mais ce qui diffère entre elles, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans leur cœur. Donc vous voyez l'importance de purifier nos cœurs et de toujours apporter une grande attention à ce qu'il y a dans celui-ci. La deuxième question, ou le deuxième rappel important lié au mois de Ramadan, il concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, il se verra pardonner ses péchés passés. Quiconque prie la nuit durant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, il se verra pardonner ses péchés passés. Et quiconque prie durant la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense, il se verra pardonner ses péchés passés. Médite sur ces deux conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émises dans chacune de ses phrases et qu'il a répétées à chaque fois. Imanan wa ihtisab, avec foi et en espérant la récompense. Il a fait de cela une condition afin d'obtenir ce mérite qui est le pardon des péchés passés. Et le sens de sa parole, imanan wa ihtisab, avec foi et en espérant la récompense, avec foi, c'est-à-dire qu'il croit en la légitimité de cet acte. En ce qui concerne le jeûne, il croit, il a la foi en l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Il a la foi quant au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré le jeûne de ce mois. Et en ce qui concerne la prière de nuit, il a la foi et il croit en la légitimité de cette prière et que c'est une sunna qui a été instaurée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis qui a été revivifiée par le calife Omar radiyallahu ta'ala anhu lors de son califat. Quant à sa parole, wahtisaba, en espérant la récompense. Cela revient à ce que l'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'il ne jeûne pas, il ne prie pas la nuit, par habitude, par coutume, pour faire comme tout le monde dans la mosquée. Non, mais il prie en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit à ce sujet, si le serviteur accomplit l'adoration avec foi et en espérant la récompense, alors cette adoration, c'est une cause immense de l'augmentation de sa foi. En effet, la foi, elle augmente par quoi ? Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque la personne, sa foi augmente, qu'est-ce qui se passe ? Elle multiplie les adorations. Et si elle multiplie les adorations, sa foi augmente. On voit donc qu'il y a un effet de corrélation entre les deux. C'est-à-dire que l'un, il implique nécessairement l'autre. La personne augmente en termes d'adoration, sa foi augmente. Plus sa foi augmente, plus elle augmente en termes d'adoration. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'avancer positivement. Bi-idhnillahi ta'ala. Et il dit ainsi, il peut atteindre les degrés de la perfection. Il dit, c'est pour cela que tu vois que celui qui jeûne Ramadan et qui prie durant la nuit avec foi et en espérant la récompense. Mais dites bien sur ce qu'il va dire, rahmallah. Celui qui jeûne durant le mois de Ramadan et qui prie durant ses nuits avec foi et en espérant la récompense. Plus le mois avance, plus ses efforts augmentent. Parce que sa foi augmente par ses efforts qu'il fait au début du mois. Donc sa foi augmente, il augmente en termes d'obéissance à Allah. Il augmente en termes d'obéissance à Allah, sa foi augmente, et ainsi de suite. Donc s'il jeûne avec foi et en espérant la récompense, ses efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala augmentent. À tel point que lorsqu'arrive la fin du mois, et qu'arrivent les moments les plus précieux du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, tu le vois beaucoup plus entrain à l'adoration qu'en début de mois. Car sa foi a augmenté durant ce mois. Il dit, quant à celui qui a été distrait, quant à ses sens, qui ne pense pas à jeûner et à prier avec foi et en espérant la récompense, qui a une déficience à ce sujet, qui a un manquement, tu le verras, faire des efforts, être plein d'entrain, plein d'enthousiasme durant les premiers jours du mois de Ramadan. Puis qu'est-ce qui se passe par la suite ? Ses efforts, ils diminuent. Il se peut même que sa situation en fin de mois, elle soit pire que celle en début de mois. Pourquoi ? Car il n'a pas médité sur ce sens. Cette condition qu'a émise le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu jeûnes avec foi et en espérant la récompense. La troisième question, ou le troisième rappel à souligner, il concerne tous ceux parmi nos frères et sœurs qui ont acquis certaines connaissances et certaines notions religieuses et qui ont les capacités de pouvoir transmettre ces choses. Ils doivent savoir que le mois de Ramadan est un moment propice et une occasion immense pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Durant le mois de Ramadan, tu vois à la mosquée des personnes que tu ne vois pas habituellement tout au long de l'année. Nombreux sont ceux qui essayent de se repentir, de faire des efforts, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Donc, celui qui a un niveau de connaissance lui permettant d'aiguiller ces personnes, de raffermir ces personnes, de les encourager dans le bien, à multiplier les efforts durant ce mois et à persister après ce mois et à rester et à faire partie des fidèles de la mosquée tout au long de l'année. Il lui incombe de faire cela. Et ceci est une chose qu'il ne faut pas négliger. Malheureusement, il y a certaines personnes qui font parfois fuir ces gens de par leur comportement. Il faut faire attention. Dis-toi que ces personnes, peut-être, pour mettre le pied à la mosquée, elle a dû faire face à de nombreux diables qui l'ont empêché d'atteindre cet objectif. Que ce soit des démons parmi les hommes ou parmi les djinns. Peut-être qu'elle a un mauvais entourage qui l'éloigne de la mosquée. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la possibilité de lutter contre son âme et de lutter contre cela et de franchir le pas et de venir à la mosquée pour prier avec les musulmans. Donc il faut faire attention à ne pas faire fuir ces personnes. Dis-toi qu'il ignore beaucoup de choses, que c'est peut-être la première fois qu'il vient prier avec les musulmans. Donc il faut le prendre en charge, l'aiguiller et lui apprendre les choses avec science et avec sagesse. Et avant cela, celui qui a acquis certaines connaissances et certaines notions en termes de religion, comme on l'a dit, il doit tout d'abord commencer à en faire profiter ses proches et sa famille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. » Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Donc la personne, elle commence tout d'abord par s'occuper de ses proches, s'occuper de sa famille durant ce mois. Si tu vois qu'il y a chez toi des personnes qui ne profitent pas de ce mois, rappelle-les à l'ordre, rappelle-leur les bienfaits de ce mois, le mérite de l'adoration durant le mois de Ramadan, qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas perdre son temps dans des futilités devant la télévision, devant Internet, les téléphones, etc. Mais profiter de ce mois pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième rappel, ou la quatrième question, elle concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Al-Qudsi, dans lequel il dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire des œuvres obligatoires. Il est important de rappeler que ceci est la base pour le musulman, de commencer par accomplir les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrites parmi les obligations. Et il y a un fléau que l'on observe durant le mois de Ramadan. Et une chose très surprenante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent les prières obligatoires, mais qui sont très assidues à la prière de nuit, salat tarawih. Il ne vient pas à la mosquée durant toute la journée, mais il est là pour la salat tarawih, alors que cette prière est surérogatoire. Également d'autres qui sont assidus dans leur prière de manière générale, tu les vois arriver en retard au moment de l'Aïcha, alors que salat al-Aïcha est plus importante que salat tarawih. Peut-être qu'il sera plus déçu d'avoir loupé la prière de tarawih que la prière de l'Aïcha, alors que la priorité est d'accomplir la prière obligatoire. Il en est de même avec toutes les autres obligations. La priorité pour le musulman est de se soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Quant aux œuvres surérogatoires, plus tu les accomplis, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition d'avoir accompli tes obligations. Également, à ce sujet, il y a un autre point à souligner. Il concerne la méditation de surat al-Fatiha. Lorsque les gens prient, comme on le sait, la surat al-Fatiha, la récitation de surat al-Fatiha, c'est un des piliers de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab ». Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire surat al-Fatiha. Tandis que la récitation qui vient après, c'est une récitation qui est surérogatoire. Donc ta méditation lors de l'écoute du Coran ou lors de sa récitation en ce qui concerne ce qui dirige la prière, elle doit être plus intense au moment de cette obligation de ce pilier, car tu es en train de réciter une surat dont la récitation est obligatoire. Et on voit certaines personnes qui ne prêtent pas attention à cela. Certains imams dans certaines mosquées, lorsqu'ils récitent surat al-Fatiha, ils la récitent rapidement, très très rapidement. Et après, ils récitent plus doucement lorsqu'ils récitent la suite du Coran. Et ceci est une erreur. Il s'oppose ainsi à ce hadith divin que l'on vient de mentionner. La chose la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le serviteur accomplit, ce sont les choses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a rendues obligatoires. Le cinquième rappel, il consiste à profiter des heures et des moments précieux durant ce mois et qui sont malheureusement beaucoup négligés. Il y a trois moments durant la journée qui sont énormément négligés par les musulmans, de manière générale et notamment durant le mois de Ramadan. Ces trois moments, ce sont le début de la journée, c'est-à-dire après la prière d'El Fajr jusqu'au lever du soleil. Le deuxième, c'est la fin de la journée, avant Salat al-Maghrib. Et le troisième, c'est la fin de la nuit avant le lever de l'aube, les derniers moments de la nuit. Quant au premier moment, le début de la journée après la prière d'El Fajr, en règle générale, la plupart des gens négligent ce moment à cause de quoi ? À cause de la fatigue et du sommeil, notamment à cause d'éveiller la nuit. Il ne dort pas la nuit, ensuite il vient prier le Fajr et il est pressé de retourner dormir. Alors que ce moment est un des moments les plus importants de la journée. Un autre moment, comme on a dit, c'est la dernière heure de la journée. Et souvent, les gens sont occupés par quoi à ce moment-là, durant le mois de Ramadan? À la préparation du repas de rupture, que ce soit en termes de cuisine ou en termes d'achat des aliments ou autre. Ils sont distraits par cela à ce moment. Et le troisième moment qui est important et précieux, comme on l'a dit, c'est la fin de la nuit, le sahar, dont certaines personnes ne profitent pas à cause de leurs préoccupations par le fait de prendre as-suhur, le fait de manger le repas avant la levée de l'aube. Alors que ce moment-là, c'est le moment de la descente divine, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et qu'il dit à ses serviteurs qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, qui m'invoque afin que je l'exauce. C'est un moment précieux, mes frères, et il échappe à beaucoup d'entre nous. Donc, le musulman, durant le mois de Ramadan, il doit faire des efforts afin de profiter de ces moments. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a mentionné qu'il fait partie de l'importance de ces trois moments, et notamment deux d'entre eux, qui sont le début et la fin de journée, que se sont réunis en ceci une œuvre obligatoire et une œuvre surérogatoire. Il dit, quant à l'œuvre obligatoire, ce sont la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr, qui sont les deux plus importantes et les plus méritoires des prières obligatoires, la prière de l'aube et la prière de l'Asr. Comme il est venu dans le hadith, celui qui est assidu à ces deux prières, il entrera au paradis. Salat al-Fajr et Salat al-Asr. Donc il dit, en ces moments-là, il y a ces œuvres obligatoires qui sont réunies avec une autre œuvre qui est surérogatoire, c'est quoi? C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les adhkar du matin et du soir qui sont légiférés après la prière de l'aube et après la prière de l'Asr. Et il dit les mérites à ce sujet. Quant à ces deux prières et quant aux adhkar, aux formules légiférées d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, du matin et du soir, ils sont très nombreux à ce sujet. Le sixième rappel, ou la sixième question, elle concerne plus particulièrement nos sœurs. En effet, durant le mois de Ramadan, il y a certaines femmes qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration. Tu la vois dès le début du mois faire des efforts, lire le Coran, faire la prière de nuit, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Puis lorsque vient son cycle mensuel, et qu'elle ne peut plus jeûner, et plus le prier, tu la vois pris de paresse et délaisser ses œuvres de bien. Et il n'y a pas de doute que la musulmane, en faisant cela, elle se prive elle-même de beaucoup de bien. Les portes du bien, elles restent ouvertes, même lorsqu'elle ne peut pas prier et lorsqu'elle ne peut pas jeûner. Le bien ne se limite pas au jeûne et à la prière, mais il y a de nombreuses obéissances que la femme peut accomplir lorsqu'elle ne peut pas prier. Elle peut par exemple multiplier les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration. C'est une adoration immense d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut également occuper son temps par le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, que ses paroles, elles lui étaient plus aimées que tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire tous les biens de ce bas monde. Le fait de prononcer ces simples paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Également, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillah, tamla'u al-mizan. Le fait de dire alhamdulillah, ça remplit la balance des bonnes œuvres. Donc ceci, ce sont des adorations qui sont simples à accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à ses compagnons, l'un d'entre vous est-il incapable de profiter ou de gagner 1000 hasanas par jour? Alors, une personne parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhu, présente dans l'assise, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment peut-on gagner 1000 hasanas par jour, 1000 bonnes actions? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, يُسَبِّحُ اللَّهَ مِئَةَ تَسْبِحَ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَ وَيُحَطُ عَنْهُ أَلْفُ خَطِئَ. Il dit, il prononce 100 tasbih, il dit 100 fois, subhanallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit 1000 bonnes actions ou lui efface 1000 mauvaises actions. Donc on voit qu'il y a en cela un grand mérite. De même, parmi les œuvres de bien qu'il convient de multiplier et que la femme peut accomplir même lorsqu'elle ne peut pas prier, il y a la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salla alayya wahida, sallallahu alayhi biha ashra. » Celui qui prie sur moi une prière, dit « Allahumma salli ala Muhammad. » Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire « Allah prie sur lui » Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ses éloges auprès de ses anges. tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait 10 fois tes éloges auprès de ses anges. C'est un mérite immense. Tu imagines que Allah subhanahu wa ta'ala fait tes éloges devant ses anges rapprochés. C'est un grand mérite qu'il ne faut pas négliger. Également, il y a l'imploration du pardon. Le fait de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi l'aumône, qui est une œuvre que la femme peut pratiquer, même si elle ne peut pas prier. Elle multiplie à l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle fait des aumônes. D'autant plus que c'est ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'adressant aux femmes, « Ya ma'char al-nisa, tasaddaqna, wa akthirna min al-istighfar. Ô vous les femmes, faites des aumônes et multipliez l'imploration du pardon, c'est-à-dire l'imploration du pardon d'Allah. « Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. » Car certes, j'ai vu que vous étiez la majorité des habitants de l'enfer. Alors, une femme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa ma lana aktharu ahli an-nar. » Et pourquoi sommes-nous les plus nombreux parmi les habitants de l'enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. » Vous maudissez beaucoup et vous faites preuve d'ingratitude envers vos maris. Donc, la femme musulmane, elle doit se soumettre à cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Multipliez les aumônes et multipliez l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose qu'elle peut faire, même si elle ne prie pas. Également parmi les choses que la femme peut faire, même lorsqu'elle ne prie pas, il y a la lecture du Coran. L'avis le plus juste, parmi les avis des gens de science, est que la femme peut lire le Coran, même si elle ne peut pas prier. Et ce, même à partir du mushaf. Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « La yamassuhu illa al-mutahharun » ne le touche que les purifiés, comme l'ont mentionné nombre parmi les gens du tafsir, cela désigne les anges, concernant les tablettes préservées, al-lawh al-mahfouz, et non pas le mushaf. Donc il est permis à la femme de toucher le mushaf et de lire le Coran, même lorsqu'elle ne peut pas prier. Et si elle n'est pas convaincue par le fait qu'elle puisse toucher le mushaf, alors elle peut lire à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Car les savants sont unanimes pour dire que cela n'a pas le jugement du mushaf. Donc il lui est permis de lire le Coran à partir de ses appareils si elle n'est pas convaincue de la permission de toucher le mushaf. Et elle continue sa lecture du Coran même durant les jours durant lesquels elle ne peut pas prier. Et également, parmi les œuvres de bien immenses dont peut profiter la femme, même lorsqu'elle ne peut pas prier, il y a le fait d'être au service des jeûneurs dans son foyer en leur préparant à manger. Et il y a en cela une récompense immense. Ceci est une adoration si elle met une bonne intention en cela. En effet, celui qui prépare le repas des jeûneurs, il obtient la récompense du jeûneur également. Ceci était donc quelques rappels et questions importantes à souligner au sujet du mois de Ramadan. Enfin, pour terminer, je souhaite rappeler à ma propre personne, ainsi qu'à mes frères, certaines œuvres qu'il ne faut pas négliger durant le mois de Ramadan. Et avant cela, il est important de se rappeler, comme on l'a dit, que la vie de l'homme, elle est courte et que le temps passe très vite. Il se peut que certains parmi nous, aujourd'hui dans cette mosquée, n'atteignent même pas le mois de Ramadan. Il se peut que d'autres, en jeûnent certains jours, ne terminent pas ce mois. Et certains seront favorisés, pourront terminer ce mois. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui pourront profiter de ce mois et se soumettre à lui de la manière qu'il agrée. Donc mes frères, comme on a dit, ce mois il est une occasion immense. Il faut profiter de notre temps et il y a des œuvres qui sont légiférées tout au long de l'année et dont le mérite est plus grand durant le mois de Ramadan. Parmi ces œuvres, il y a la récitation du Coran. Comme on a dit, le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Et la lecture du Coran, c'est une des meilleures œuvres par laquelle tu peux occuper ton temps durant le mois de Ramadan. Que ce soit en le récitant, en le révisant, ou en le mémorisant, mais également en mettant en pratique les règles du Coran. Et ceci est une chose, mes frères, qu'il ne faut pas négliger. Le Coran, il n'a pas été révélé simplement pour être lu et récité, pour rechercher la bénédiction en cela, ou rechercher la récompense de la récitation. Mais le Coran, il a été révélé comme guide pour l'humanité, afin que l'on le mette en pratique. Donc, il est important de multiplier sa récitation, mais il est également important de se soumettre à ses règles, de mettre en pratique les règles mentionnées dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve dans les deux recueils authentiques, D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens et qu'il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il dit, durant le mois de Ramadan, Jibril venait à lui et il révisait avec lui le Coran. Il venait chaque nuit durant le mois de Ramadan afin de réviser le Coran. Ce hadith, il nous démontre la recommandation et la légitimité d'étudier le Coran et de le réviser durant le mois de Ramadan. Et également, la légitimité et la recommandation de se réunir pour cela. Et ceci est une sunna qui est malheureusement négligée à notre époque. Le fait de se réunir pour réciter le Coran. Nombreux sont ceux qui terminent le Coran, qui multiplient la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Mais on trouve très peu d'assises où les gens lisent. Une personne lit et les autres écoutent le Coran. Ou lisent à tour de rôle. Ceci est une sunna qui est négligée et oubliée à notre époque. Lorsque tu écoutes ton frère réciter le Coran, tu as la même récompense que lui. Et ceci est une chose très bénéfique pour qui ? Pour celui qui ne sait pas lire. Celui qui ne sait pas lire le Coran, ou celui qui a du mal à lire le Coran, et qui a du mal à terminer la lecture du Coran, il peut par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala se mettre avec un de ses frères, l'écouter lire le Coran et suivre sa lecture. Il aura en cela la récompense de la lecture du Coran en entier. Et ceci est une chose qui est pratiquée par les gens de science. Et parmi ceux qui ont mis en pratique cette sunna, à notre époque, il y a l'éminent Cheikh et le grand savant Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. En effet, ceux qui ont eu l'occasion de pouvoir visiter le Cheikh durant le mois de Ramadan, lorsqu'il habitait à la Mecque, ils ont certainement vu que chaque jour après l'Asr, il y avait des étudiants qui venaient et qui lisaient un juz du Coran. Et Cheikh, hafidahullah, et les élèves s'asseyaient et écoutaient la lecture, jusqu'à terminer le Coran à la fin du mois. Et il faisait ça chaque année, hafidahullah ta'ala. Donc ceci est une chose qui est légiférée. Qu'un frère qui sait bien lire ou quelques frères, ils se réunissent avec d'autres frères et ils font une lecture commune du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit qu'il fait partie des choses importantes durant le mois de Ramadan de multiplier sa récitation et sa lecture, et ce même en groupe. Également ce hadith, il nous prouve la recommandation que cette lecture ait lieu durant la nuit. Car Jibril alayhi salam, il venait quand ? Il venait durant la nuit. Et certes, la nuit, c'est le moment le plus propice à la méditation du Coran. Car en général, la personne, elle n'a plus d'occupation, elle a terminé son travail, les choses de ce bas monde, et elle peut se consacrer à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à ce sujet, dans surat al-Muzammil, « Inna nashi'at al-layl yashaddu wat'a wa aqwa muqila » La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Et les salafs, rahimahumullahu ta'ala, ils donnaient une grande importance à cela, à multiplier la lecture du Coran durant le mois de Ramadan. Certains parmi eux terminaient la lecture du Coran toutes les trois nuits. D'autres le terminaient toutes les sept nuits. D'autres toutes les dix nuits. Et ainsi de suite. Et ils faisaient de grands efforts pour réciter le Coran durant le mois de Ramadan, que ce soit dans leur prière ou en dehors de leur prière. On rapporte de certains parmi eux qu'ils terminaient le Coran même toutes les deux nuits. An-Nakhai, rahimahullahu ta'ala, il faisait cela spécifiquement durant les dix derniers jours de Ramadan. Durant les dix dernières nuits de Ramadan. Toutes les deux nuits, il terminait le Coran. Et le reste du mois, il le terminait toutes les trois nuits. Quant à Qatada, rahimahullah, il terminait toute l'année le Coran toutes les sept nuits. Tout au long de l'année. Puis lorsque venait le mois de Ramadan, il le terminait toutes les trois nuits. Puis lorsque venaient les dix dernières nuits du mois de Ramadan, il le terminait toutes les nuits. Où en sommes-nous de cela ? L'un d'entre nous, s'il termine une fois la récitation du Coran durant le mois de Ramadan, il est fier de lui. Tout au long de l'année, il terminait le Coran toutes les sept nuits. Durant le mois de Ramadan, toutes les trois nuits et durant les dix dernières nuits, chaque nuit, il terminait le Coran. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il clôturait la lecture du Coran 60 fois durant le mois de Ramadan, fi ghayri salah, en dehors de la prière, sans parler de la prière. C'est-à-dire une fois la journée, une fois la nuit, sans parler de la prière. L'imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, il dit à ce sujet, encourageant à la lecture du Coran, que lorsque le mois de Ramadan entrait, il disait « Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am » Ce mois, il n'est fait que pour la récitation du Coran, le fait de donner de la nourriture, nourrir les gens. Certaines personnes pourraient se dire « Comment cela se fait-il que ces imams récitaient le Coran en moins de trois nuits, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de réciter le Coran en moins de trois jours ?» La réponse, elle a été donnée par l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui a dit que cette interdiction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste le fait de faire constamment cela. C'est-à-dire que la personne, toute l'année, elle lise le Coran au moins de 3 jours. Elle lise tous les jours, par exemple. Mais il dit, quant au moment méritoire, ou aux endroits méritoires, comme le mois de Ramadan, ou celui qui se rend à Mecca pour faire la Umrah ou le Hajj ou autre, alors il leur est permis de lire le Coran en moins de 3 jours. Pourquoi ? Pour profiter du mérite de ce moment ou du mérite de cet endroit. Ceci est la réponse que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a donnée à cette objection. La deuxième œuvre, ou la deuxième adoration qu'il convient de multiplier, à laquelle il faut donner de l'importance durant le mois de Ramadan, c'est l'aumône, la sadaqa. En effet, l'aumône, elle a une particularité durant le mois de Ramadan. Et on a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus généreux des gens et qu'il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il convient donc aux musulmans de multiplier les aumônes durant ce mois, de profiter de ce mois pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en dépensant de ses biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribués de par sa grâce et sa faveur afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas penser que cette adoration, elle est réservée aux riches. Lorsqu'on parle d'aumône, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément une situation financière aisée qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par l'aumône. Ils pensent que l'aumône, elle est réservée à ceux qui sont riches. Même si tu n'as pas beaucoup de biens, il t'est possible de faire l'aumône. Tu ne dois pas mépriser la moindre œuvre pieuse, le moindre centime ou le moindre euro que tu dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en trouveras la récompense auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il y a différentes manières de donner l'aumône. Ce n'est pas seulement l'argent. Il t'est possible de nourrir des gens, par exemple, de partager ton repas. Et pas forcément avec un pauvre, même avec un ami ou autre. Tu nourris un jeûneur. Tu profites du mois de Ramadan pour nourrir un jeûneur et tu obtiens ainsi la récompense de ton jour de jeûne et la récompense de son jour parce que tu l'auras nourri. Ce n'est donc pas une condition que celui que tu nourrisses, il soit pauvre. S'il est pauvre, alhamdoulilah, tu auras réuni entre les deux, entre le fait de nourrir un jeûneur et le fait de donner une aumône. Et cette adoration, le fait de nourrir les gens, découle d'elle de nombreuses autres adorations. C'est pour ça qu'elle est très méritoire. En effet, celui qui va nourrir les gens, c'est une manière pour lui de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'argent et de la nourriture qu'il lui a accordé. Il remercie Allah en dépensant cette nourriture d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Également, en partageant son repas, en partageant sa nourriture, cela suscite de l'affection et de l'amitié entre les musulmans. Et cela fait naître en eux de l'amour mutuel et les frères en islam sentiront ainsi les bienfaits de cette fraternité. En effet, lorsqu'un frère t'invite durant le mois de Ramadan ou autre à partager son repas, cela crée des liens d'amitié et d'amour entre vous. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger cette œuvre qui n'est pas une œuvre difficile et qui est simple à faire, qui consiste simplement à partager ton repas avec tes frères. Tu n'as pas besoin de t'imposer une surcharge. Il te suffit de préparer ton repas que tu souhaites manger et le partager avec un de tes frères et tu auras une récompense en cela. Et si cela suscite de l'amour entre vous, il est à espérer alors que ceci soit la cause de ton entrée au paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Donc il fait partie de la concrétisation de la foi que les musulmans aient de l'amour mutuel entre eux, qu'ils s'aiment les uns les autres. Il faut s'éloigner des sentiments de rancune, des sentiments de haine injustifiés avec nos frères en islam. Il faut purifier nos cœurs de tout cela et concrétiser notre foi en s'aimant les uns les autres. Également en se rappelant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi qui a dit « Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya » Mon amour est prescrit, est obligatoire pour qui ? Pour ceux qui s'aiment en moi. C'est-à-dire ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala. De par cet amour qu'ils ont les uns envers les autres, ils obtiennent l'amour de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les adorations qui découlent du fait de partager son repas et d'offrir de la nourriture, il y a le fait qu'en faisant cela, tu vas aider ton frère à se renforcer afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses adorations. C'est-à-dire que la force qui va découler de ce repas, tu en seras la cause et tu en auras donc la récompense par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc, mes frères, deux adorations auxquelles il convient de donner de l'importance durant le mois de Ramadan. Et il y a de nombreuses autres œuvres, comme le fait, par exemple, de rester à la mosquée après le Fajr pour lire le Coran, puis ensuite d'accomplir 2 unités de prière après la levée de l'aube. Et en cela, une grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit la prière de l'aube, puis reste à l'endroit où il a prié, c'est-à-dire dans la mosquée, dans son salat, pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis accomplit 2 unités de prière après la levée du soleil, alors il obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit complet, complet, complet. Il a répété 3 fois. Le simple fait de rester à la mosquée, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala après salat al-fajr, puis ensuite accomplir 2 unités de prière après la levée du soleil, tu obtiens la récompense d'un hajj et d'une umrah complet, complet, complet. Et ceci est également valable pour la femme qui reste chez elle, à l'endroit où elle a prié, a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la levée du soleil, puis accompli ensuite 2 unités de prière. Également parmi les œuvres auxquelles il convient de donner de l'importance durant le mois de Ramadan, il y a bien évidemment l'assiduité aux prières obligatoires en commun à la mosquée pour les hommes. Et aussi le fait de venir tôt à la prière du jour du vendredi, comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths. Et également d'autres nombreuses adorations qui sont légiférées tout au long de l'année et dont l'importance grandit et est décuplée durant le mois de Ramadan. Et on va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan et de nous faire profiter de celui-ci dans son obéissance. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Et pardonnez-moi pour tous les manquements ou les erreurs qui auraient pu se produire durant ces cours. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et je vous remercie pour votre accueil et pour votre présence durant ces assises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la place dans la balance des bonnes œuvres de chacun d'entre nous. Barakallahu fikum.